L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Bonjour, nous sommes le 15 décembre 2007, il y a donc un peu plus de 10 ans, et c'est mon prédécesseur Philippe Couve qui est à ce micro, vous allez le reconnaître.
Au programme cette semaine, il était à la tête d'un grand quotidien français, il est en train de lancer un site d'information sur Internet. Bonjour Edoui Plenel.
Bonjour.
Votre projet s'appelle Mediapart, vous direz dans quelques instants ce que vous allez faire sur le web.
Ils sont à quelques semaines après cette émission, exactement le 16 mars 2008, Mediapart naissait. Nous sommes le 17 mars 2018 et Edoui Plenel est à nouveau notre invité. Il est en pleine célébration du 10e anniversaire de ce média auquel beaucoup prédisaient une existence fugace.
Si vous considérez que le modèle d'indépendance de la presse, c'est Mediapart, alors dans ce cas-là, je suis assez inquiet pour la démocratie française. Rassurez-vous, le compte économique de Mediapart réglera assez vite ce problème, puisque le modèle choisi par Edoui Plenel est un modèle absurde. La presse sur le net ne peut être que gratuite. La presse payante sur le net ne peut pas marcher.
Bonjour Edoui Plenel.
Et bonjour.
Vous êtes tué, je ne sais pas si on se tutoie.
Allez, avec grand plaisir.
Tu es cofondateur et président de Mediapart et joyeux anniversaire du coup.
Merci de cette invitation et merci de ces petits clins d'œil avec cette boussole qui indique toujours le sud, c'est-à-dire Alain Minc.
Alain Minc, c'est la voix qu'on vient d'entendre, donc qui prédisait un avenir court à Mediapart à cause de son modèle économique. On va parler plus longuement du modèle économique. Est-ce que tu te souviens, j'ai également commencé l'émission avec un entretien avec Philippe Couve en décembre de 2007. Est-ce que tu te souviens de cet entretien? Tu avais donc présenté le projet, ce qui était encore un projet Mediapart. Je te propose de réécouter le début de cet entretien pour voir si ça concorde avec ce que c'est devenu 10 ans plus tard.
Notre premier invité cette semaine est Edoui Plenel, qui se lance sur Internet après avoir dirigé de 1996 à 2004 la rédaction du quotidien Le Monde. Le site que vous allez lancer s'appelle Mediapart. Alors concrètement, on va trouver quoi sur le site Mediapart?
On va trouver un vrai journalisme d'enquête, pas un journalisme qui redonde, qui répète toujours la même chose, donc un journalisme de terrain, pas un journalisme scotché devant son écran, un journalisme qui va, qui cherche. Mais on va trouver deux autres choses. Le web, c'est une mine extraordinaire. Simplement aujourd'hui, le tri, qui est un de nos métiers, la hiérarchie, qu'est-ce qui est plus pertinent, c'est des algorithmes, c'est des moteurs. On va faire cette veille pour vous. On va dire, voilà, dans le web du monde entier, aujourd'hui, il y a ça à voir, et il y a ça qui nous intéresse, et il y a ça, et ainsi de suite. Et troisièmement, il y aura un vrai club, une vraie communauté, et ça rejoint notre modèle économique, mixte, une partie gratuite, mais une partie par l'abonnement payant, pour construire ce public contributeur sorti de l'anonymat qui, à mon avis, nuit à la qualité sur le net, l'anonymat vengeur, où on se lâche, où on dit n'importe quoi, où on écrit n'importe quoi parfois, ou parfois même on laisse déverser une forme de haine, eh bien c'est construire une conversation démocratique entre gens qui savent pourquoi ils sont là et qui vont eux-mêmes contribuer.
Est-ce que tu te retrouves dans cette présentation? A priori, oui.
Oui,
peut-être le deuxième point.
Oui, le deuxième point a été. Il est dans la revue du web aujourd'hui, ce qu'on appelle le fil d'actualité. Il a moins d'importance que je ne le pensais à l'époque. Mais il est vrai en même temps que ce qu'on a découvert avec Mediapart, que je ne devinais pas. Là, on était au stade du projet. C'est sincèrement comment on fait mieux notre métier, je le pense, dans un média numérique. Il n'y a pas de formatage. Il y a le lien. C'est pour ça que je dis la revue du web, elle est partout, elle est même dans les autres articles. Il y a le multimédia, puisque depuis Mediapart fait sa télévision, il y a des articles audio. Bref, nous sommes sortis quelque part de cet objet limité qu'est le papier, tout en y défendant dans le numérique ce que je crois être, ce que disaient ses réponses au tout début, le meilleur de la tradition journalistique, c'est-à-dire le journalisme de terrain, d'enquête, pas le journalisme qui bâtonne des dépêches en étant assis sur un siège.
Ce qui est devenu, on peut le dire, la marque de fabrique de Mediapart, on va y revenir. On a entendu au début de l'émission un extrait d'entretien avec Alain Minc, c'était une interview qu'il donnait à France Info en octobre 2008, qui prédisait un avenir sombre pour Mediapart et qui donc se trompait. Il attaquait votre modèle payant. Il faut lui accorder qu'il était loin d'être le seul à douter de ce choix. Philippe Couve, t'avais interrogé à l'époque sur ce thème. On va écouter sa question et ta réponse.
Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup interpellé ceux qui sont intervenus sur l'atelier des médias, sur notre site, en disant, mais comment est-ce que vous organisez les choses avec cette contradiction? Si vous êtes payant, vous êtes derrière une sorte de mur sur Internet. Or, sur Internet, l'objectif, c'est de créer des liens. On pourra pas faire des liens derrière vos papiers, puisque seuls les abonnés y auront accès. Alors, expliquez-nous ça.
Non, il y a d'ailleurs un très sur notre site, il y a quelqu'un qui nous soutient, qui est une figure de la liberté sur Internet, qui est un de nos actionnaires, qui est Laurent Chemla, qui a créé Gandhi. Et d'abord, il dit la gratuité sur Internet, c'est un mythe. On est en train de se faire avoir par des grosses logiques marchandes. Donc lui, il dit, ce qui est gratuit et qui doit rester gratuit et qui sera gratuit sur Mediapart.fr, c'est l'échange, justement. Vous êtes abonné, bah, vous aurez un crédit de lien. Vous enverrez nos articles. Ce ne sera pas fermé, ce ne sera pas une muraille. L'échange restera gratuit. Ce que je veux construire, c'est pas mon modèle économique, et pas un modèle économique abstrait. D'abord, il y a une idée, c'est l'indépendance. Pas de pub, pas de dépendance publicitaire, pas de dépendance des grands groupes. L'idée du payant, c'est de dire, nous, on veut construire un public, non plus une audience, non plus la masse, non plus la foule, non plus l'anonymat, un public. Parce qu'on pense que l'information, c'est un service qui va au-delà, c'est un service démocratique.
Edoui Plenel, tu as demandé en arrivant dans ce studio s'il y avait des caméras. J'ai dit non et j'ai envie d'ajouter maintenant malheureusement, puisque en t'écoutant, tu n'arrêtes pas de faire oui de la tête, oui non, de la tête et d'être
surpris,
étonné.
Ouais. Je suis surpris, puisque je n'avais pas entendu ça depuis 10 ans, je crois que finalement c'est ça la clé du succès de Mediapart. C'est d'abord évidemment celles et ceux qui le font et tous ceux qui nous ont rejoints. Mais il y avait une très forte cohérence du projet. Parce que ce sont des choses que je redis aujourd'hui. Hein, cette question du public contre l'audience, la foule, la masse anonyme, cette idée de la valeur de l'information, qu'au fond, la gratuité marchande, la gratuité publicitaire détruit la valeur de l'information. Cette idée, en effet, qu'il y a un échange, un partage. Vous savez, Mediapart, le bilan de cette année, 2017, c'est 140 000 abonnés. Certes, mais c'est 4,7 millions de visiteurs uniques en moyenne mensuelle. Ce qui prouve bien que le payant, c'est pas un mur. Le club, évidemment, est en accès libre. Les résumés de nos articles sont en accès libre. Et en effet, c'est beaucoup plus qu'un crédit, ce que je disais à l'époque. Chaque abonné de Mediapart peut offrir autant d'articles de Mediapart qu'il veut à autant d'amis qu'il veut. Donc, ça veut dire qu'il y a une circulation. Simplement, il y avait au cœur cette idée de la valeur, au fond, démocratique du journalisme. À quoi on sert? Je crois que c'est ça, l'idée, au fond, c'était pas de se faire plaisir comme des journalistes font leur petit site, leur petite start-up, etc. Notre obsession depuis le début, c'est de rétablir la confiance avec le public en se demandant à quoi nous sommes utiles. En clair, à produire des informations d'intérêt public.
Tu as publié, Edoui, donc un livre qui s'appelle « La valeur de l'information », justement, à l'occasion des 10 ans. Dès les premières lignes du texte, j'ai été surpris par cette phrase « Réussir est un fardeau quand créer était une joie ». Donc tu vas commenter, tu vas expliquer. Je me demande, tu ajoutes, s'il n'eût pas mieux valu ajouter l'échec à l'incompréhension. Tu regrettes presque d'avoir réussi ce pari.
Cette phrase, comme je le dis tout de suite après, c'est un peu une posture, hein, parce qu'en fait, au contraire, on ne regrette pas. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai écrit ce livre, qui est un livre comme un compte-rendu de mandat, et on pourrait dire aussi un compte-rendu de combat. Bon, c'est un essai sur qu'est-ce que ces 10 ans de Mediapart nous apprennent, à nous tous, citoyens et journalistes. Et donc, quand j'écris ce livre, c'est à la fin de l'année dernière, c'est au moment où un grand paquet d'eau de mer tombe sur Mediapart pour essayer de le discréditer avec une campagne calomnieuse où nous sommes traités d'islamo-gauchistes comme j'avais été traité d'espion de la CIA au moment du Monde. Et donc, je commence ce livre en disant, voilà, tous ces gens parlent de nous sans nous connaître et au fond, et c'est le premier chapitre de ce livre qui est « La liberté est toujours un combat ». Et au fond, je retrouve là ce fait que le journaliste que je défends maintenant depuis plus de 40 ans dans ce pays est toujours en butte à des calomnies, à des gens, on dit pour, si on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est-à-dire cette faible culture démocratique française, nous y sommes ces derniers temps, on le voit aussi bien à droite qu'à gauche. Il y a une haine du journalisme qui se porte très bien, qui est même revendiquée
syndiquer comme cela, les journalistes, où qu'ils soient, à RFI, à Mediapart ou ailleurs, ils se battent comme d'autres salariés pour leur indépendance, pour leur conviction démocratique. Je dis combien toutes ces polémiques détestables, elles sont tristes, pas tellement pour moi, mais pour tous ceux qui ont fait cette aventure, notamment la rédaction de Mediapart et ceux qui y travaillent.
Car, je te cite, cette réussite solitaire d'un média à part aiguise les désirs de revanche de tous ceux qu'elle a dérangés ou contredits, bousculés ou démentis, exaspérés ou démasqués. Et tu fais suivre cette phrase un peu plus loin d'un florilège, littéralement, des attaques ou des petites phrases assassines qui ont été prononcées contre Mediapart. J'en lis quelques-unes, ou sauf si tu souhaites les lire toi-même.
Ah, je ne sais pas, tu préférais que je lise les insultes de nos adversaires. Alors, c'est assez drôle, oui. Mediapart, c'est le site qui utilise des méthodes fascistes. Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP en 2010. Mediapart, c'est quoi? C'est une officine. Au service de qui? Vous savez très bien, au service de la gauche. Nicolas Sarkozy, président de la République, 2012. Mediapart est une officine financée par de riches amis de François Hollande. C'est François Fillon, premier ministre, 2012. On dit que c'est un journal, Mediapart. C'est une officine merdique qui a du caca sur les mains. Excusez-moi, c'est pas moi qui parle. C'est monsieur Éric Raoult, député UMP en 2012. Le Parti Socialiste condamne fortement les attaques et les calomnies sans fondement à l'encontre de Jérôme Cahuzac. Communiqué du PS 2012. Je m'arrête là, il y en aurait encore beaucoup.
J'ai une question quand même par rapport à ça. J'ai été étonné. Alors j'imagine quand même les attaques ont été nombreuses et on va même revenir sur d'autres terrains d'attaque, mais j'ai quand même été étonné de la place que tu souhaitais accorder à ces personnes, à ces choses-là, dans ce livre des 10 ans et dans ce bilan. Je me suis dit peut-être qu'en fait ça vous a tellement occupé, ça vous a tellement embarrassé que c'est nécessaire de donner à nouveau la parole à ces critiques.
Non, c'est pas ça. C'était d'expliquer au lecteur combien ce qui a fait notre réputation n'allait pas de soi. Je parle de nos enquêtes, je parle de nos révélations. Combien c'est une bataille. Et que le fait d'être indépendant, et vraiment indépendant, nous a permis de mener cette bataille. On n'imagine pas la violence. On a oublié, mais l'affaire Bettencourt, quand on sort les enregistrements du majordome qui sont reconnus par la justice comme des preuves, tous les médias nous tombent dessus, y compris les plus sérieux, Le Monde et Le Canard enchaîné. Et aujourd'hui même, je suis encore devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la République française pour avoir imposé, l'État français, sa justice, imposer une censure des articles de Mediapart.
Alors qu'on a gagné. Des articles qui ont dû être
bien
retirés
sûr,
du site.
Pour simplement avoir fait état de ce que la justice considérait elle-même comme une preuve.
Parce que ces enregistrements ont été considérés comme illégaux. Donc
mais c'est tombé ça. Il a gagné le majordome, ainsi que nous. Il était poursuivi pour atteinte à l'intimité de la vie privée et nous-mêmes, comme recel de cette intimité, nous avons gagné. Deuxième exemple, l'affaire Cahuzac. J'ai arrêté mon florilège à une citation de Jean-Michel Apathy qui nous demandait des preuves et d'autres. Rappelons-nous, personne ne croyait à ce qui était sous les yeux et sous les oreilles, dans les oreilles de tout le monde, avec l'enregistrement. On a dû se battre. J'ai même dû, on l'a oublié, interpeller la justice. Je ne l'aurais pas fait. Eh bien, la manœuvre qui disait « on a blanchi Cahuzac » aurait marché. Et puis enfin, nous sommes sur RFI. Les révélations de Mediapart qui concernent vraiment le monde entier, notamment le continent africain, c'est les révélations libyennes. L'affaire Sarkozy-Kadhafi. Cette guerre privée menée en 2011 pour renverser Kadhafi, pour effacer quoi? Pour effacer le fait que Kadhafi a financé Nicolas Sarkozy pour sa campagne électorale de 2007. On a eu une bataille en justice. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît ça. Mais tous les médias disaient, eh bien non, ce document est faux, n'est pas vrai. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Ça fait 7 ans que ça nous a occupés. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand on parle de l'indépendance, c'est pas pour se faire plaisir. Quand on parle de l'indépendance économique, c'est que nous ne serions pas ce média à part, sans aucun fil à la patte. Nous n'aurions pas pu mener ce combat jusqu'au bout. Et donc, je veux rappeler ça et rappeler en même temps à d'autres qui ont peu de confiance dans les médias, qui critiquent les journalistes, qu'il y a des médias, il y a des journalistes, et que c'est un champ de bataille, le journalisme, et que nous, il nous arrive aussi de batailler au nom du journalisme contre d'autres médias.
Ce combat pour l'indépendance économique et l'indépendance en général des organes de presse, il n'est pas nouveau. Toujours dans le cadre de ce 10e anniversaire, tu as préfacé la réédition du livre « La presse, le pouvoir et l'argent » de Jean Schwebel, journaliste lui-même et premier président de la Société des rédacteurs du quotidien Le Monde. Son livre a été publié en 1968. En 1969, il répondait aux questions de Jacques Pastreau de l'ORTF. On l'écoute.
Je crois qu'il faudrait insister devant tous les spectateurs, devant ce fait, c'est que l'information c'est le plus grand problème, la plus grande mission de l'avenir. On a dit même, un certain nombre de sociologues l'ont dit, il y a eu un siècle de la vapeur, il y a eu après le siècle de l'électricité, on peut dire que peut-être maintenant c'est le siècle des communications, c'est-à-dire le siècle de l'information. Pourquoi ? Parce qu'à la différence des époques et des millénaires précédents, tout va très vite. Nous sommes à une époque de progrès technologique et scientifique qui va à une vitesse prodigieuse. Or, ces découvertes ont des conséquences sur notre façon de vivre et bien entendu sur notre façon de penser. Comprenez bien que le citoyen maintenant se trouve en face de pouvoirs colossaux, de pouvoirs politiques, de pouvoirs économiques qui ont tous les moyens. Ils ont les moyens mécanographiques, électroniques, les fichiers, et je ne parle pas de la police bien entendu, ils ont les ordinateurs. Le citoyen il est totalement démuni. En face d'eux, quel est le moyen pour lui de se défendre, de défendre sa liberté et de progresser? C'est de participer aux décisions, c'est de participer aux choix à la fois des pouvoirs politiques mais aussi des pouvoirs économiques. Mais comment peut-il exercer ce choix s'il n'est pas informé?
Alors pratiquement, qu'est-ce que vous proposez pour permettre tout cela?
Il faut trouver un moyen qui, dans une large mesure, reconnaisse que les entreprises de presse ne sont pas des entreprises ordinaires qui vendent des sardines ou des machines à écrire ou des frigidaires. Elles ont la charge d'un service d'intérêt général, d'un service public au bénéfice de l'homme, pour permettre à l'homme non seulement d'exercer ses droits de citoyen, mais de chercher l'épanouissement dont il a besoin. Ce que nous reprochons à l'heure actuelle, ce que nous regrettons et ce que nous demandons, c'est que nous ne soyons pas sous la dépendance simplement du support industriel qui a ses lois propres. Et la loi propre de l'entreprise commerciale à l'heure actuelle, c'est d'être tout à fait dépendant de la publicité. Parce que vous savez bien que la publicité apporte à peu près 60, 70, 80% des recettes d'un journal actuel. C'est si vrai que vous arrivez même aujourd'hui aux journaux gratuits. C'est-à-dire dont la rentabilité est assurée exclusivement par la publicité. Moi, je n'ai rien contre la publicité en soi-même, parce qu'elle est nécessaire, elle est indispensable. Seulement, je crois que ce qui est dangereux, c'est que la publicité soit le seul support. À ce moment-là, les directeurs de journaux, simplement parce qu'ils sont responsables d'une entreprise et de collaborateurs, ont les yeux littéralement rivés sur la publicité.
C'était Jean Schwebel en 1969. Encore une fois, je regrette qu'on n'ait pas de caméra dans ce studio parce que tu n'as pas arrêté de bouger la tête,
applaudir,
les bras, etc.
J'allais applaudir. Formidable. Quel beau cadeau d'anniversaire, Ziad. C'est formidable. En plus,
je faut remercier Lina.
Je rentends sa voix puisque j'ai connu Jean Schwebel. Oui, j'ai convaincu Le Seuil et Maurice Hollander, le directeur de la collection La Librairie du XXIe siècle, de réédité 50 ans après, avec l'accord de ses trois filles, ce livre pionnier de Jean Schwebel. Et on voit combien c'était visionnaire. Quand on l'écoute, il nous parle de nos problèmes d'aujourd'hui, un demi-siècle après. Et au fond, c'était une façon de dire comment nous, ce que nous essayons de défendre Mediapart, en fait, au cœur de la modernité numérique, c'est en effet une longue durée, une longue bataille, une histoire qui est ce combat des journalistes pour l'indépendance économique. Ce combat des journalistes pour être indépendants des puissances d'argent, hein, qui est au cœur de ce livre « La presse, le pouvoir et l'argent » où il y a l'idée de créer, c'est un peu le projet de Mediapart, des sociétés de presse à but non lucratif, c'est-à-dire ce qu'on essaye de faire. Nous, on va essayer de faire une sorte de fonds pour la presse libre qui va sanctuariser Mediapart, son capital, le rendre incessible, inachetable, non spéculable, et au fond, défendre cette question de la liberté et du pluralisme de la presse. Et pourquoi je dis ça? Vous savez que l'ensemble des médias privés sont aujourd'hui la propriété d'industriels, de l'armement, du luxe, de la téléphonie. Néanmoins, ils touchent des aides publiques directes, ce que nous refusons. Premier à les toucher, c'est LVMH pour Le Parisien, Journal Populaire, et les échos journal économiques. Ensuite, c'est SFR Presse, puis après, il y a Dassault, puis après, il y a le monsieur de Free, Niel, etc. Ils sont propriétaires de ces médias, comme disait Beuve-Méry, le fondateur du Monde. C'est la presse d'industrie, c'est-à-dire vous faites les meilleurs journaux que vous voulez, sauf si vous touchez à nos intérêts. Ne touchez pas à nos industries. Et donc, ils ne devraient pas, alors qu'ils sont milliardaires, ils ne devraient pas toucher d'aide publique. Et ce que je souligne dans l'ère numérique, c'est qu'en plus, ils acceptent aussi des subventions des GAFAM, ces grands oligopoles du numérique, de Google, qui finance aussi la presse française, de Facebook, qui donne de l'argent, y compris sur le formatage des contenus, de la fondation Gates, Microsoft, ainsi de suite. J'ai rappelé dans un article de Mediapart récemment que Le Monde Afrique, qui est très bien, avec des journalistes de qualité, eh bien, on ne le sait pas quand on va sur Le Monde. On le sait si on va sur la fondation Gates. Eh bien, c'est Bill et Melinda Gates qui financent tout. Et donc, ça, c'est pas normal.
Tu évoques les GAFAM. J'ai une anecdote à ce sujet, mais je te propose de l'entendre et je propose à nos auditeurs de l'entendre de l'autre côté du flash. À tout de suite. Atelier des médias, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes avec Edoui Plenel, cofondateur et président de Mediapart. Mediapart célèbre aujourd'hui, enfin hier plus précisément, ses 10 ans. À cette occasion, Edoui Plenel a publié un livre, La valeur de l'information, un texte combatif chez Don Quichotte.
http://atelier.rfi.fr.
Edoui, on a marqué une pause et j'avais une anecdote, c'est que quand on a pris contact par courrier électronique pour cette émission, je t'ai envoyé un mail, tu as répondu quelques jours plus tard, ce qui est tout à fait normal, en me disant j'étais au Mali. Bien évidemment, étant RFI, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire au Mali ? Et il y a quelques jours, en préparant plus précisément l'émission, je suis allé regarder ton fil Twitter en me disant que j'allais savoir ce que tu avais fait au Mali. Et j'ai pas réussi à remonter. Tu tweets tellement que je n'ai pas réussi à remonter de 2 semaines dans ton fil Twitter. C'était trop long, c'était impossible. Et d'où cette anecdote, tu parlais des GAFAM dans la première partie de l'émission. Et je me suis dit, c'est quand même étrange cette utilisation frénétique de cet outil qui est aussi un des avatars de ce que tu appelles les GAFAM. Donc je voulais avoir ta réaction dessus.
Non, nous c'est le logo de Mediapart, c'est un crieur de journal qui est inspiré d'ailleurs d'une gravure du 19e siècle. C'est le journal dans la rue.
Qui était le logo aussi, tu le rappelles, dans
les éditions Maspero, de François Maspero, qui a été un peu un des parrains de notre aventure, qui hélas n'est plus de ce monde. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est François Maspero qui publie le grand livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, qui a fait le tour du monde, comme on sait, et qui a été au cœur des indépendances africaines et des souverainetés. Et donc, ce logo dit quoi ? Il dit qu'un journal, il est dans la cité, que les journalistes, ils sont au service de la société. Il est dans la rue, il crie les nouvelles. Hein, demandez la dernière édition, ne loupez pas et tout. La recette d'un journal, c'est cela. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais avec Mediapart ? Pas seulement moi, Mediapart, les réseaux sociaux, mais moi, en tant que tel, sur Facebook et sur Twitter, c'est la rue numérique. Et dans la rue numérique, si on va sur mes comptes, on s'apercevra que je ne dis rien de personnel, je ne raconte rien de moi. En fait, je me mets au service de Mediapart. Je crie pour Mediapart. Et quand j'ai été au Mali, d'ailleurs, c'était pour Mediapart, hein, à partir d'un article qui est devenu un petit manifeste que j'avais fait sur le devoir d'hospitalité, sur la question des migrants, des demandeurs de refuge.
Donc c'était pour un salon du livre.
Oui, avec beaucoup de rencontres, avec aussi des amis maliens qui étaient là, à la maison de la presse. Et puis, c'est aussi l'occasion de comprendre, ce n'est peut-être pas le temps d'en parler, vraiment les défis de cette histoire. On parlait tout à l'heure des conséquences de la guerre en Libye, de la chute de Kadhafi, et d'une certaine manière, le Mali paye aussi le prix de nos erreurs. Et ça a été assez passionnant. Mais c'est vrai que je suis dans cette rue numérique et sur Mediapart, vous trouverez ce que vous ne trouverez pas ailleurs.
Je l'ai dit en introduction de cette partie, le livre La valeur de l'information est un livre combatif. Les combats de Mediapart, ils se font, on l'a évoqué rapidement, également en justice. L'atelier des médias travaille en ce moment sur ce que certains appellent des procès bâillons, c'est-à-dire l'attaque en justice de journalistes, de médias, d'Edoui Plenel en particulier, puisque tu es souvent co-attaqué avec le journaliste qui signe, pour handicaper, freiner, faire peur et donc empêcher de faire son travail. Et dans le cadre de cette enquête, Antoine Saxe, notre journaliste, était au tribunal de Nanterre le 6 mars dernier. Il y a croisé votre avocat.
Bonjour, je suis Emmanuel Tangeman, conseil de Monsieur Plenel, Madame Pigeot et de Mediapart. Et aujourd'hui, nous devions plaider une affaire de diffamation qui nous est reprochée par 2 sociétés du groupe Bolloré et Monsieur Bolloré, à raison d'un article publié en avril 2016 sur Mediapart qui fait état de ce que, à raison d'une décision de justice qui n'aurait pas été exécutée, 2 familles camerounaises ont été ruinées et mènent un combat depuis une vingtaine d'années pour obtenir l'exécution d'un jugement qui est devenu définitif. Le dossier devait être plaidé aujourd'hui, mais les parties civiles ont estimé qu'elles n'avaient pas assez de temps pour répondre aux moyens de nullité que nous avons soulevés de la plainte avec constitution de partie civile qui avait été déposée initialement. Et c'est pour ça que le tribunal a renvoyé cette affaire au 6 décembre prochain pour bénéficier du temps suffisant pour apprécier complètement l'affaire.
La partie civile, c'est ceux qui vous attaquent. Là, c'est un petit peu technique. Donc, requête en nullité, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que nous avons soulevé des moyens d'irrégularité de la plainte. Il faut savoir qu'en matière de diffamation, la procédure, comme on l'appelle, est déterminante parce qu'elle conditionne la possibilité ou non de restreindre une des libertés fondamentales de nos sociétés. Ça veut dire que, effectivement, nous estimons que les prévenus, M. Plenet et Mme Pigeot, n'ont pas été en mesure de savoir précisément ce qui leur a été reproché et par qui. Et vous comprenez que dès lors qu'un journaliste interne de la publication ne sait pas ce qu'on lui reproche, il n'est pas en mesure de se défendre et partant, il demande donc la nullité de la procédure.
Vous êtes l'avocat de Mediapart, vous avez combien de dossiers en diffamation ou autre en ce moment ?
Écoutez, le nombre, je sais que depuis le début, nous avons eu à peu près environ 160-170 dossiers depuis la création du journal. Et trois condamnations définitives.
Je salue Emmanuel Torgman, notre avocat qui nous accompagne depuis toujours. Vous savez, le groupe Bolloré, là, ce procès a été renvoyé. C'est pour ça que je n'étais pas à Nanterre, puisque j'étais prévenu qu'ils ont trouvé que nos arguments étaient trop solides pour eux. Donc, ils ont demandé du temps, du délai. Mais en fait,
il n'y était pas parce que normalement, tu y vas.
Comme directeur de publication, il faut savoir que le directeur de publication est plus responsable que les auteurs d'un article, puisque c'est lui qui dit oui, on peut publier. Et moi, je mets un point d'honneur par respect pour la justice, et qui est gardienne, en l'occurrence, d'une liberté fondamentale, comme vient de le dire Maître Torgman, je mets un point d'honneur à être présent. Et j'ai été présent, c'était au tribunal de Paris cette fois, pendant deux jours, au dernier procès que nous a fait le groupe Bolloré, via des faunés camerounais, c'est-à-dire des sociétés du Cameroun, mais c'est en fait M. Bolloré qui impose aux dirigeants camerounais de ces sociétés de nous poursuivre. Nous étions poursuivis, pas seulement nous, l'ONG Survie et d'autres, nous étions poursuivis pour avoir simplement fait état, et c'est intéressant de dire ça, pour fait état du fait qu'il y avait dans la société camerounaise des associations de petits paysans qui se mobilisaient sur l'appropriation des terres pour faire de l'huile de palme par le groupe Bolloré qui à la fois contrôle les ports, le transport, mais la terre. Et pas seulement au Cameroun, le Sierra Leone et d'autres avaient fait cela. Donc c'est comme si on faisait un procès. Il y a une grève ici en France dans je ne sais quel secteur et RFI en rend compte. Eh bien, l'entreprise disait RFI n'a pas le droit de raconter qu'il y a une grève. C'est-à-dire le droit de manifester, le droit de protester, le droit de s'exprimer. Mais c'était un procès surréel où, quand il y avait des pauses, des interruptions d'audience, les témoins qui étaient cités sous la pression du groupe Bolloré, qui venaient du Cameroun, hein, ils venaient nous dire « Vous avez raison, mais on ne peut pas faire autrement ». C'est-à-dire que tout d'un coup, on touchait là. Quand on dit qu'il y a un néocolonialisme, il y a un retour de la possession et de la perte de souveraineté sous le régime, M. Paul Biya était déjà de fait au pouvoir en 1968, hein, il était là, il était déjà présent au cœur du pouvoir camerounais, ça fait 50 ans, et bien tout d'un coup on le touchait là, et avec le fait que ce qui serait indéfendable ici, c'est-à-dire empêcher une liberté simple, la liberté de protester, de se réunir, de manifester, eh bien ici, devant le tribunal, on venait la nier. Ils avaient même déplacé un bâtonnier, c'est-à-dire un avocat du Cameroun, pour faire cette pression qui était... Moi, j'ai beaucoup de respect pour le peuple camerounais et tous ceux qui étaient là, mais c'était une humiliation. C'était vraiment le paternalisme colonial. Et en effet, c'est des procédures bâillons. C'est empêcher que nous parlions des protestations que peut créer la prévarication, la possession, l'exploitation, l'oppression par cet immense groupe qui est le groupe Bolloré et qui, hélas, aujourd'hui contrôle un média, le média Canal+.
Ce qui est frappant, juste un mot aussi sur ça, ce sont les chiffres donnés par Emmanuel Torgman.
160 à 170.
160 depuis qu'on existe. Je crois que vous dépensez 150 000, c'est ce que vous avez écrit.
150 000 euros par an en frais d'avocat. Mais comment dire, moi... C'est normal. Je veux dire, d'abord, c'est un hommage au fait que Mediapart dérange, que Mediapart publie des nouvelles qui dérangent. Et du coup, ils ont le droit, à la loyale, de nous poursuivre. Et comme il l'a rappelé, nous n'avons perdu en 10 ans que 3 fois, et à chaque fois mérité. Une fois, respect du contradictoire trop tardif, c'est-à-dire qu'on a appelé la personne trop près de la publication de l'article. Deuxièmement, une autre fois, c'est sur une phrase d'une interview qu'on a corrigée, la personne l'a démentie, etc. Et la troisième fois, c'était une erreur
que nous avons rectifiée, qui n'était pas au cœur de l'article, qui était secondaire, mais néanmoins nous l'avons commise. Donc en clair, les tribunaux nous sanctionnent à proportion du respect qu'ils ont pour notre travail. Parce que, je rappelle à nos auditeurs, vous savez, en France, et la loi que veut faire le pouvoir actuel sur les fake news m'inquiète, hein, que le pouvoir exécutif veuille s'immiscer dans cette loi de 1881 sur la liberté de la presse en France, qui a généré une procédure très démocratique, très proche de l'exigence qu'on peut avoir de professionnalisme, de loyauté auprès des journalistes. Vous savez comment on se défend devant un tribunal ? On se défend soit en disant « j'ai la preuve des faits », et c'est très rare que s'il y a une procédure qu'on dise « ok, vous avez la preuve, même si la justice n'a pas sanctionné, moi j'ai eu droit à ça dans une affaire célèbre qui était l'affaire des Irlandais de Fincen, la justice n'avait rien vu, et la justice s'est rattrapée en disant « Plenel a dit la vérité ». Mais c'est très rare que ça arrive. Comment on s'en sort ? On dit « monsieur ou madame la présidente », on fait ce qu'on appelle l'exception de bonne foi. Premièrement, légitimité du but poursuivi. Ce que j'ai révélé est légitime et d'intérêt public. Deuxièmement, sérieux de l'enquête. Je ne me suis pas contenté de faire ça au doigt mouillé. J'ai donné des coups de fil, j'ai envoyé des mails, j'ai vu des témoins, j'ai des documents. Troisièmement, respect du contradictoire. Je mets en cause quelqu'un, eh bien, je l'ai appelé. Il ne m'a pas répondu. Ok, j'ai appelé son avocat. J'ai envoyé des mails, des textos. J'ai la trace de mon travail de respect du contradictoire. J'ai mis sa réaction ou celle de son avocat. Quatrièmement, j'ai une modération dans l'expression. Je ne dis pas monsieur machin mérite d'être pendu haut et court parce que c'est un salaud. Je dis il y a des faits de corruption reprochés à un tel. Il a fait ça. Je ne suis pas dans l'excès, dans la polémique, dans la virulence. Et enfin, cinquième condition de la bonne foi, je n'ai pas d'animosité personnelle. Je ne suis pas en train de régler un compte avec un ancien employeur.
C'est pas ton beau-frère.
Voilà, c'est pas une querelle de famille où j'utiliserai la puissance d'un journal. Je souligne ça parce que c'est une jurisprudence très belle qui oblige le journaliste, où qu'il soit, et ça vaut pour les blogueurs aujourd'hui, hein, qui quand ils...
Il oblige le citoyen, en fait, le tout citoyen, simplement. Voilà. Parce que cette loi s'applique à n'importe quel citoyen.
Bien sûr, c'est la bataille que nous avons gagnée pour dire, n'importe quel citoyen peut aujourd'hui, lui aussi, publier quelque chose. Eh bien, voilà. Une liberté appelle la responsabilité. Et là, on en a un exemple très fort, et c'est pour ça qu'il faut se méfier des pouvoirs politiques qui, comme c'est le cas actuellement, disent, ah, le numérique, ça bouillonne de tous les côtés, on va s'en mêler. Et on va faire des exceptions à cause du numérique. Et ça, c'est un danger très fort parce que ça risque d'être une atteinte à la libre expression des citoyens.
Mais la responsabilité du journaliste n'empêche pas l'engagement. Tu cites dans le livre plusieurs figures du journalisme. Karl Marx, d'ailleurs, au passage, puisque tu rappelles qu'il était également journaliste. Oui. Tu as une très belle citation sur ce qu'il dit de la presse libre. Elle est l'impitoyable confession qu'un peuple se fait à lui-même. C'est très joli. Et la figure de Joseph Pulitzer, tu cites ces mots de lui. « Le directeur de journal, dit-il, le vrai journaliste de l'avenir, doit être un homme d'une intégrité tellement reconnue que personne ne pourra le soupçonner d'écrire ou de diriger une rédaction contre ses convictions. Il doit être celui dont on pense qu'il préférera démissionner plutôt que de sacrifier ses principes à un quelconque intérêt financier. » Et pour faire suivre donc les mots par des actes, dont vous avez publié tout récemment une charte déontologique à l'occasion des 10 ans. C'est récent, ça m'a étonné hein, que ce soit aussi récent pour Mediapart, mais j'imagine que vous l'appliquiez déjà sans avoir besoin de le dire, peut-être, enfin, tu vas expliquer. Et dans cette charte, chacun des journalistes qui signe un papier chez vous doit faire sa déclaration d'intérêt, c'est-à-dire dire si il a travaillé pour telle ou telle entreprise qui peut avoir un lien avec le sujet qu'il couvre, etc.
C'est vrai qu'on avait du retard. Alors, on avait du retard dans la proclamation d'une charte originale. En fait, notre charte se réfère à tous les grands textes, hein, la charte de Munich de 71, celle des devoirs professionnels qui a 100 ans, de 1918. Nous avions déjà intégré ça. Mais là, on a fait une charte nouvelle pour aller plus loin, se poser des questions nouvelles. Par exemple, dans cette charte, il y a la question de comment les journalistes de Mediapart se comportent sur les réseaux sociaux. Il y a la question, comme nous sommes un journal dans la cité, de la participation ou non à des réunions, à des invitations par des partis politiques.
Pendant des campagnes électorales,
pendant des campagnes électorales, mais pas seulement aussi. Et notamment, ça me concernait parce que je suis très sollicité. Et comme j'ai dit, parfois, moi, je suis prêt à accepter tout pour promouvoir Mediapart. Donc, à aller dans des lieux de perdition. J'ai même dit en rigolant une fois, je suis prêt à me prostituer pour Mediapart. Je voulais dire par là, dans l'intérêt de Mediapart et de cette petite aventure. Il y a évidemment toutes sortes de règles déontologiques précises sur les voyages.
Faire de ce qu'on appelle de ménage.
Ménage, voyage, voilà.
C'est-à-dire d'animer des débats ou des choses comme ça.
Il y a la transparence de notre grille des salaires pour savoir combien on gagne à Mediapart, etc. Mais en effet, il y a cette originalité qui est les déclarations d'intérêt. Alors j'explique. Sous l'effet de souffle de nos révélations dans l'affaire Cahuzac, il y a eu cette haute autorité de contrôle de la vie politique qui demande à ce que les élus, mais pas seulement certains hauts fonctionnaires, des hauts responsables publics, disent, au fond, pour qu'on sache s'il y a des conflits d'intérêts, pour qu'on sache tout, combien ils gagnent, leurs ressources, effet, bref, qu'on ait une transparence par rapport au pouvoir qu'ils ont. Et comme nous portons ça, la rédaction de Mediapart s'est dit, on doit s'appliquer ça à nous-mêmes aussi. Toutes ces déclarations d'intérêt sont en ligne à notre date anniversaire, le 16 mars.
Je l'ai rappelé, donc tu as publié un livre qui s'appelle « La valeur de l'information » à l'occasion des 10 ans. Il y a une petite phrase qui a retenu mon attention aussi, qui est peut-être un aveu ou en tout cas quelque chose que tu peux clarifier. Je te cite, « Si nous avons pu paraître donneurs de leçons, c'était le malentendu que peut créer l'insolence de la liberté et l'arrogance du bonheur. »
Oui, c'est vrai, c'est une phrase autocritique, bien sûr, que j'entends ça souvent, le prêche de Plénel, il est donneur de leçons, et pas seulement moi d'ailleurs, parfois on dit, ça se transmet à la rédaction, on arrive avec des certitudes, avec une force de conviction, on affirme beaucoup, etc. Alors j'ai essayé de dire, oui, c'est vrai qu'on est comme ça, mais on n'est pas comme ça par prétention, on ne veut pas donner de leçons, mais on est comme des animés par un idéal. Alors bon, moi je trouve que c'est bien d'avoir un idéal, c'est bien de pas simplement vouloir vivoter et survivre d'une année sur l'autre et aller au fil de l'eau. Donc oui, j'essaye sincèrement, je dis ce livre c'est un compte-rendu de mandat ou un compte-rendu de combat.
J'ai une dernière surprise à te faire écouter, mais c'est pas tout de suite. Avant ça, je pense à nos auditeurs et nous, on anime une communauté de blogueurs.
Je sais.
Qui s'appelle Mondoblog. Je sais qu'on est vraiment souvent sollicité par des jeunes qui ont des vrais projets de médias dans les pays où on nous écoute. Et évidemment, le modèle Mediapart n'est pas reproductible partout. Par exemple, payer en ligne aujourd'hui dans beaucoup de pays du Sud, c'est quasiment impossible. Donc un modèle payant, même je pense d'ailleurs à ces personnes, donc là-bas, qui n'ont pas du tout accès à Mediapart et qui n'ont même matériellement, même s'ils ont l'argent, pas la possibilité puisqu'ils n'ont pas de carte de crédit, etc. Mais qu'est-ce que c'est les conseils que tu peux donner, puisque tu reviens du Mali, je sais que tu voyages beaucoup pour prêcher la parole de Mediapart, on s'est croisés dans plusieurs pays. Qu'est-ce que c'est les grands conseils que tu peux donner à ces personnes qui nous écoutent ?
D'abord, je préfère dire partage plutôt que conseil, ça aurait l'air prétentieux, et d'autant plus que j'étais avant en Guinée, à Conakry, pour les 20 ans de Guinée News, qui est un vrai pionnier numérique de la presse démocratique sur le continent africain. Guinée News, et c'est intéressant dans les débats sur le discours officiel que je combats en France, qui est le refus de l'immigration, au fond, a été créé par des gens de la diaspora guinéenne, dont quelqu'un qui vit au Canada, qui est inspecteur des douanes, qui voyant la transition démocratique en Guinée, et il y a 20 ans, il faut voir, fallait savoir faire du code, on était au balbutiement, et qui se sont dit « je dois aider mon pays et mon peuple, voilà, depuis là où je suis ». Il y en avait un autre qui était au Japon. Et ils ont inventé, puisqu'il n'y a pratiquement pas de presse-papier en Guinée, ce journal qui est un journal participatif où des gens, y compris au cœur de l'administration, les ont aidés à ce que les informations soient fiables et qui fêtait ses 20 ans et qui est vraiment au cœur de la vie publique guinéenne. Alors, notre modèle n'est pas immédiatement reproductible, mais encore. Je crois que fait son chemin, y compris sur le continent africain, cette idée que le meilleur soutien n'est pas la publicité, qui est une illusion, on n'y arrive pas. Et surtout, c'est provisoire, ça peut créer des dépendances, etc. Le meilleur soutien, c'est le soutien des lecteurs. Quand nous avons lancé Mediapart, n'existaient pas les plateformes de financement participatif. N'existait pas ce moyen qui n'est pas celui forcément de la carte de crédit. N'existait pas le paiement par PayPal de la même manière, etc. Donc il y a aujourd'hui, et tous écoutent ça, regardent ça, cette possibilité de se dire, même si j'ai de la publicité, même si je reste totalement gratuit, je dis à mes lecteurs, soutenez-moi, aidez-moi, parce que cette presse indépendante, on en a besoin. Ça, c'est premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il faut parier sur le numérique. C'est un raccourci démocratique. L'équipement, aujourd'hui, c'est C'est une révolution industrielle qui permet de faire un bond. Aujourd'hui, un jeune de Bamako connaît mieux la France et le Massif central qu'un paysan français, il y a 50 ans, connaissait Bamako. Il connaît notre vie, il connaît notre histoire, etc. Donc, on est dans ce moment d'une circulation sans frontières et sans papier de l'information. Et donc, il faut en profiter. Il faut en profiter dans cette idée du lien, du partage, de l'échange, du participatif. Alors, c'est une bataille, hein. On a d'autant moins, nous, à donner des leçons que les risques que prend Mediapart ici sont rien par rapport à ce qu'on vit dans des régimes qui utilisent l'argument sécuritaire pour brider les journalistes au Mali, pendant que j'y étais, des journalistes au prétexte d'une affaire de mœurs, je ne sais pas ce qu'il en est, il y a eu une perquisition dans le journal, qui est un journal numérique, des journalistes ont été emprisonnés, il y a une réalité permanente, parfois de violence, de pression, de corruption, etc., qui existe. Et donc, il faut mener cette bataille. Tu sais, je la glisse et j'ai eu tort, je n'ai pas donné les droits d'auteur, j'aurais dû le mettre dans le livre. La plus belle leçon, et je crois que tu étais là, que j'ai eue, elle est de Smokey, cet activiste du ballet citoyen au Burkina. On était à un débat sur les médias. Et il m'écoutait dire la nouvelle qui réveille, comme révéler la fraude fiscale du ministre du budget, ben ça oblige à faire face à cette question de l'évasion fiscale, de l'égalité devant l'impôt. C'est l'effet de souffle de l'affaire Cahuzac. Il me dit « Ah, monsieur Plenel !» Et il raconte une histoire sur des révélations, sur des détournements de fonds européens du temps de Blaise Compaoré. Et il raconte comment ça a eu un impact. Et il dit « Vous savez, monsieur Plenel, les journalistes lèvent le lièvre, mais c'est à la société de les attraper. » Et ça, j'ai trouvé ça très beau sur l'image du lien entre les journalistes et la société.
En 2005, donc dernière surprise, je travaillais sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'aller interroger un vieil homme, aujourd'hui disparu, qui avait contribué à la réalisation de ce grand texte. Un homme que tu affectionnes particulièrement, Edwy Plenel, qui s'appelle Stéphane Hessel, qui a d'ailleurs présenté les vœux de Mediapart.
Les premiers vœux de Mediapart.
À la fin de l'entretien, Stéphane Ronxin, qui travaillait avec moi sur ce projet, avait demandé à Stéphane Hessel s'il était confiant pour l'avenir. On l'écoute.
Si nous pouvons dire en bonne conscience, mais toujours avec quelques réserves, que les choses vont mieux, que les droits de l'homme sont plus présents, n'oublions pas cependant qu'agissent contre la réalisation effective des droits de l'homme au moins deux grandes forces redoutables qui sont inscrites dans la nature humaine. Le goût du pouvoir d'un côté et le goût de l'argent de l'autre, le goût du profit. Nous vivons dans un monde qui est encore dominé par des États qui cherchent le pouvoir, par des gouvernements qui cherchent le pouvoir et par des forces économiques qui cherchent le profit. Et surmonter cela pour que le pouvoir soit vraiment accessible à tous et donc dirigé démocratiquement, et que l'argent soit considéré comme un moyen de réaliser les objectifs sociaux et pas comme une façon d'enrichir quelques-uns au détriment des autres, ça c'est le grand combat à mener encore aujourd'hui. Et ce n'est que lorsque ce combat-là trouvera sa solution que nous pourrons dire enfin que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas seulement été un beau texte, mais a été un guide pour améliorer la manière dont les hommes et les femmes et les enfants vivent ensemble sur cette terre.
Est-ce que vous avez bon espoir ?
Je suis sur ce plan un optimiste inconditionnel. Pourquoi ? Parce que je suis maintenant très vieux. Et que quand on a vécu beaucoup de décennies, on s'aperçoit que s'il y a tout le temps encore des drames et des horreurs, il y a de décennie en décennie des choses qui s'améliorent. Et il y a des mauvaises décennies et des meilleures décennies, mais au total, les 80 décennies que j'ai maintenant vécues, bientôt 88 décennies, bientôt 9, ont quand même apporté à notre civilisation des avancées qu'il ne faut à aucun prix sous-estimer.
Vous pensez à quoi quand vous dites ça ?
Je pense notamment que ce qui a formidablement progressé, c'est la prise de conscience de la possibilité de vivre dans un monde plus juste. On aurait pu, il y a encore 50 ans, imaginer que les diverses différences, les disparités entre les civilisations, entre les blancs et les noirs, entre les jaunes et les autres, étaient irrémédiables et qu'il n'y aurait jamais une mondialité globale avec un souci de justice et d'égalité. Aujourd'hui, on ne peut plus le croire. Et même si cet objectif n'est pas atteint, il est là. Il figure dans la conscience des jeunes. Il peut d'ailleurs y être promu par l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle cet article 26 est tellement important.
Article 26 qui dit que toute personne a droit à l'éducation. Edoui Plenel, pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la prochaine décennie de Mediapart ?
De combattre exactement ce que disait Stéphane Hessel, de se frayer un chemin pour échapper à la tenaille du pouvoir et de l'argent, de l'obsession du pouvoir, de l'obsession de la domination et de l'obsession du profit, de la spéculation, et de faire ce chemin à la manière de Stéphane Hessel. Pessimiste de l'intelligence, bien sûr, qu'il y a des obstacles, mais optimiste de la volonté. J'aime souvent dire que l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance, c'est-à-dire qu'on apporte peut-être des mauvaises nouvelles, nous, par nos révélations, mais c'est une façon aussi de se réveiller, de se dire qu'il y a des défis à relever, des nouvelles solutions à inventer. Par rapport à ce que disait Stéphane il y a donc maintenant 13 ans, si j'ai bien compris, en 2005, il y a quelque chose de nouveau qu'il faut vraiment souligner. Dans notre monde interdépendant d'aujourd'hui, où il y a eu des grandes espérances avec la révolution numérique, en même temps, il y a la part d'ombre de cette révolution qui agit de plus en plus. Et cette part d'ombre menace parfois la vérité. Nous avons besoin que des gens, les journalistes, aident la vérité. Que la vérité ne soit pas totalement étouffée par le règne de l'opinion, le règne du préjugé, le règne de la croyance, le règne de l'idéologie. Et c'est là où pour moi, ce qu'on peut souhaiter à Mediapart, c'est de continuer à aider nos démocraties, notre profession, tout le monde, à défendre cet idéal. Car c'est ça notre raison d'être en tant que journaliste.
Merci Edoui Plenel. J'en profite pour saluer aussi toutes les autres personnes qui ont fait Mediapart et qui sont venues à ce
bien
micro
sûr.
Ou pas. Je pense à François Bonnet.
Directeur éditorial qui vient de passer la main à la nouvelle génération, un tandem paritaire.
Que nous avons eu la chance de rencontrer à l'atelier des médias, et c'est quelqu'un d'extrêmement humble et d'extrêmement talentueux et d'accessible. Voilà, donc,
c'est vraiment le cofondateur avec qui j'ai inventé Mediapart.
Et aux autres personnes très nombreuses, quand on fait le bilan, au moins une vingtaine qu'on a rencontrées, interviewées dans le cadre de cette émission. À bientôt.
Merci beaucoup. C'était plein de beaux cadeaux et ça m'a beaucoup ému.